quatrième et dernier temps de notre semaine sur l'histoire des langues dans la fabrique de l'histoire. Après avoir reçu lundi l'écrivain Vassilis Alexakis, que nous félicitons d'ailleurs car il a reçu hier le prix de la langue française 2012. Il lui sera remis le 9 novembre lors de la foire du livre de Brive, et son invité est Paul Fournel. Puis avoir cheminé mardi dans le documentaire de Jean-Michel Djian et Charles Trou en compagnie des Pères Blancs au sein de l'Institut des Belles Lettres Arabes de Tunis, qui tente justement de passer entre langue française et langue arabe, et nous être intéressés hier à l'histoire des traductions du Coran en français depuis le XVIIe siècle, nous allons ce matin, Perrine Kervran et moi-même, nous aventurer sur des terres historiques inconnues pour nous, des terres déjà parcourues par notre invité de lundi, Vassilis Alexakis, qui dans un roman publié il y a 2 ans se demandait quel était le premier mot prononcé par un humain. Nous allons en effet pendant 1 heure nous poser 2 questions conjointes et fort complexes. Que sait-on aujourd'hui de la naissance du langage et de la naissance des langues? Nous serons aidés en cela par nos invités, le paléo-anthropologue Pascal Pic, maître de conférence au Collège de France, co-auteur en 2008 au seuil de La plus belle histoire du langage et récemment chez Odile Jacob de L'homme est-il un grand singe politique de Christophe Coupé. Il est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire de linguistique dynamique du langage à Lyon, et d'Alain Kim. Il est également directeur de recherche au CNRS, mais lui au laboratoire de linguistique formelle. Alain Kim et Christophe Coupé ont participé en 2005 sous la direction de Jean-Marie Humbert à un gros livre collectif publié chez Fayard dont le titre pourrait servir d'étendard à cette émission de ce matin, aux origines des langues et du langage. Bonjour Perrine Kervran.
Bonjour.
Vous avez préparé cette émission avec moi. Vous avez sué sang et eau sur les questions qui sont posées autour de la question du langage et des langues. Et vous êtes même allé faire un petit reportage qui va ouvrir notre discussion. Parce que on peut s'intéresser aujourd'hui à cette question des langues et du langage en allant voir comment les bébés perçoivent à leur naissance les sons qu'ils entendent.
Voilà, donc je suis allée voir Josiane Bertoncini, donc qui est chercheuse au CNRS, au laboratoire de psychologie de la perception, dans l'équipe de perception de la parole, donc sous la responsabilité de Thierry Nadi. Donc c'est une équipe CNRS à Paris-Descartes. Et donc ils travaillent pour savoir comment des bébés entre 2 jours et 10 mois s'organisent et se saisissent des paramètres de ce qu'ils perçoivent pour finalement savoir quelles capacités ont les nouveau-nés et comment ils vont les mobiliser ensuite pour acquérir le langage et puis acquérir la langue. Parce que ce sont 2 questions sur lesquelles ces chercheurs travaillent, c'est la question du langage et puis de la langue. Comment est-ce que le bain linguistique favorise aussi tout ça?
On écoute.
Là, on est chez le nouveau-né, à la maternité. Donc.
Moulévi, Limoujo, Rujomou, Viruna, Nuvile, Jounaru, Molivé.
Donc là, il s'agit plutôt de séquences donc de mots. Toujours consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle.
Moulélé, Limoumou, Rujojo, Viruru, Nuvivi. Jounana, Molili, les momos.
Dans la deuxième série, on a des mots dans lesquels donc, les 2 dernières syllabes sont répétées. Donc il s'agit d'enfants qui ont 2 jours, 3 jours, qui sont encore à la maternité. Il y a un expérimentateur qui est proche de l'enfant, mais qui est hors de sa vision, et qui contrôle l'expérience. L'idée étant de voir si les enfants nouveau-nés ont déjà des activités cérébrales différentes lorsqu'il y a une répétition de la structure syllabique, ce qui sous-entend qu'ils sont déjà, ils sont programmés en quelque sorte pour utiliser ce type de régularité qu'ils vont effectivement utiliser à différents niveaux de la structure linguistique.
Emma, 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 Emma.
Dans cette expérience, nous essayons de voir si des enfants de 5 mois préfèrent écouter leur prénom prononcé correctement ou mal prononcé.
Ima, 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 Ima.
Les résultats jusque-là semblent montrer que les enfants distinguent correctement, autrement dit, préfèrent vraiment leur prénom quand il est opposé à le même prénom mais mal prononcé, en particulier quand il y a un changement de voyelle. D'accord ? Pour les consonnes, c'est moins clair. Donc l'idée, c'est quel type d'information l'enfant perçoit, comment il organise cette information, comment il la stocke, comment il la mémorise, et surtout comment il va l'organiser donc, dans ses représentations qui vont l'aider quand à nouveau on lui parle, quand à nouveau il est face à un flux de paroles, les représentations qu'il a déjà acquises vont évidemment l'aider à distinguer, à segmenter, à extraire déjà des patterns sonores qu'il aura entendu déjà un grand nombre de fois.
Voilà pour ce reportage auprès de Josiane Bertoncini. Alors, est-ce que ça nous aide sur la question que, pour résoudre la question que nous nous posons, origine des langues, origine du langage, que de savoir justement comment on tente, Christophe Coupé, de comprendre comment un bébé aujourd'hui restitue les sons qu'il a pu entendre.
C'est une question qui existe depuis un bon moment dans la communauté scientifique. Souvent, on pose la question, est-ce que l'ontogénie, donc le développement de l'enfant, récapitule la phylogénie, donc qui est l'évolution de nos ancêtres au cours du temps long, on va dire. Et cette idée-là, elle est peut-être venue plutôt du développement embryonnaire, la façon dont les stades de développement de l'embryon humain peuvent rappeler certaines grandes étapes de l'évolution des espèces. Mais essayer d'appliquer cette idée-là au langage, tout de suite, ça pose beaucoup de problèmes. Un enfant aujourd'hui, un petit enfant qui arrive, il dispose d'un patrimoine génétique donné, il arrive dans un environnement où les personnes autour de lui ont une langue qui est fonctionnelle, qui vont pouvoir lui apprendre. Mais quand on remonte dans la préhistoire, on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc à partir de là, c'est difficile de faire des parallèles. C'est un peu risqué.
Et pourtant, j'ai cru lire qu'il n'y avait pas d'évolution majeure du cerveau humain depuis 100 000 ans. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai, Pascal Pic?
Ah oui, absolument. Il y a toujours eu cette idée de trouver le petit truc en plus qui distinguerait les hommes, notamment les autres espèces les plus proches, notamment les grands singes. C'était le module du langage de Chomsky. Mais enfin, ce n'était pas un module du genre un boulot en plus. Hein. C'était quand même un module cognitif, donc c'est un peu plus complexe. Et c'est des querelles qui traînent depuis longtemps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les aptitudes à acquérir le langage des jeunes enfants, et ça c'est très important, sont issues d'une évolution qui est la phylogénèse. Ça c'est important. Et un terme est employé dans le reportage que nous avons écouté, programmé. Non, on n'est pas programmé. Même on sait sur les maladies génétiques, c'est pas parce qu'on a le gène qu'on aura la maladie. Donc en fait, nous naissons avec un ensemble d'aptitudes qui vont se révéler justement dans le contexte qu'on vient d'évoquer, du contact avec les personnes, les sons qu'on va entendre autour de nous, etc.
Donc le contexte d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 100 000 ans.
Oui, à mon avis, ça n'a pas changé socialement. On est à peine né, comme j'ai à dire, on sort l'utérus maternel, qu'on est dans un utérus culturel où déjà avant la naissance, le petit a entendu des sons, les prosodies, etc. Donc tout ça, déjà, il n'arrive pas au monde complètement vierge de tout contact avec le langage de sa mère et de l'entourage. Mais par contre, on sait, à contrario, que des enfants qui sont isolés socialement, vous avez parlé tout à l'heure de M. Alexakis. Et justement, il était venu me voir pour discuter du premier mot, je me souviens. Donc, je le salue au passage. C'était il y a 2-3 ans, évidemment.
Oui, parce qu'il a écrit ça, où il disait « J'ai remarqué que tu as pris dans ta chambre le livre de mon amie Marilyn Préau. Je ne peux pas te répondre car je ne l'ai pas lu. Sur l'une des façades de l'Institut Paléontologie figure un bas-relief qui le représente au milieu d'un groupe de chimpanzés. Marilyn pense qu'il était beaucoup plus évolué que nous ne le croyons jusqu'à présent. Elle a de la sympathie pour lui parce qu'il fut le premier habitant du continent européen. Le crâne qui a été exhumé en Grèce du Nord, à Petralona, appartient à l'un de ses ancêtres. J'aimerais bien savoir, quand les hommes ont commencé à parler, à quel moment de leur évolution les moyens de communication plus rudimentaires dont ils disposaient jusque-là ont cessé de leur suffire? Quelle nécessité les a donc poussés à faire ce grand pas que constitue le premier mot qu'ont-ils dit lorsqu'ils ont enfin parlé? Ouais. C'est la question que pose ce roman de Vassilis Alexakis, Pascal Flick.
Et alors donc, on sait que les enfants qui sont... Alors c'était on appelle ça l'expérience interdite, hein, des enfants qui ont été isolés socialement dès le départ, après ça, on ne les récupère plus du tout. Donc en fait, nous naissons avec un ensemble d'aptitudes. Alors c'était un débat d'ailleurs qui avait émergé de manière assez vive entre François Jacob et Jean Piaget. À l'époque, ça fait une quarantaine d'années,
dans les années 60.
Des colloques de Cerisy, pas de Cerisy, que dis-je, en plus à côté de chez moi, l'habit de Royaumont. Ouais. Hein, voilà. Et là, il y avait toujours cette idée, vous savez, l'ontogénèse, phylogénèse, c'est l'idée d'une évolution graduelle où on accumule des acquis qui ensuite vont s'empiler. Donc ça, la théorie de Piaget est un peu comme celle-là. Alors ça, c'est un truc qui n'existe pas du tout, c'était très bien dit par M. Coupé. Hein. On a hérité d'aptitude pour ce langage. Alors simplement, la grammaire qui est quand même extrêmement complexe. On sait très bien que les enfants, à l'âge de 2 ans, enfin même avant déjà, acquièrent rapidement la grammaire et ça, et la syntaxe. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Mais ça, c'est aussi une évolution. Par contre, pour le retracer, c'est compliqué. Et on sait que, par exemple, les chimpanzés, aussi doués soient-ils, n'ont pas cette capacité de la posséder. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un gène ou un module en plus, mais ça s'est construit sur 2 millions d'années.
Alors, tout de même, aux origines des langues et du langage, c'est la même chose ou ça n'est pas la même chose ? Le langage, ça n'est pas la même chose que les langues ?
Le langage, c'est l'aptitude, justement, à avoir des langues. Le langage, c'est un mode de communication qui est fondé, alors mes collègues en parleront mieux que moi, sur une double articulation. Donc, vous avez un ensemble de termes qu'on appelle des phonèmes, qui ensuite, dans la succession, va prendre du sens. Donc, c'est une double articulation entre les deux.
Et le langage... Mais le langage précède les langues.
Alors, l'aptitude du langage précède les langues, en ce sens où... attendez, c'est une condition nécessaire, mais dès le départ, évidemment, il y a élocution. Il n'y aura pas un premier mot, il y aura certainement plusieurs mots et des phrases dès le départ, évidemment.
Périne Cabran.
Et alors, est-ce que effectivement, à un moment, on a tenu compte dans l'historiographie hein, de toute cette histoire de la linguistique, est-ce qu'on a tenu compte justement de ces expériences autour des nouveau-nés ? Est-ce qu'à un moment, on les a utilisées dans cette manière d'étudier comment le langage est venu ?
Oui, bien sûr, ben, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. On voyait les enfants, comme on n'a pas accès à la préhistoire, en tout cas des informations très fragmentaires, donc du coup, on s'est dit, allons voir chez les enfants qui vont nous restituer une espèce d'archéologie du langage. Alors, il faut faire attention parce qu'on appelle ça, dans les théories de l'évolution, l'ingénierie inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les fonctions souvent les plus complexes sont apparues récemment et il faut faire attention pour bien les reconstituer dans la phylogénèse. Mais par contre, pour les origines du langage, par exemple, une caractéristique du langage, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est la récursivité. C'est-à-dire qu'on a une idée, on la développe et puis on en chasse, vous voyez, une autre idée, etc. Alors, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est de regarder un petit peu comment les Homo erectus, pour faire simple, il y a 1,5 million d'années, taillaient des outils qu'on appelle les bifaces. Mm-hmm. Vous apercevez, et c'est d'ailleurs corrélé avec l'imagerie cérébrale, la manière de construire, de concevoir la chaîne opératoire, ces outils, eh bien, inclut des récursivités. Donc apparemment, ils avaient déjà les capacités cognitives complexes qui étaient associées au langage.
Alors maintenant, est-ce qu'ils parlaient ou pas ? On pourrait savoir par le fait qu'ils taillaient des bifaces,
voilà,
qu'ils parlaient.
Est-ce qu'on a les structures est-ce qu'il y a les structures cognitives qui sont liées au langage ? Ils les ont. Maintenant, est-ce qu'ils parlaient ? C'est la question des langues.
Périne Cabran.
Oui, parce que c'est ça qui est très intéressant dans les hypothèses que vous avancez dans votre travail, Pascal Pic, c'est cette question de plutôt que de se demander pourquoi on a parlé ou de se demander comment, c'est de se demander quelles sont les conditions, quels sont les actes sociaux que pouvaient effectuer les hommes qui nécessitent forcément plus qu'une communication par les gestes, qui nécessitent un langage. Et ça, on voit ça quand vous parlez par exemple, des rites funéraires ou du partage de la chasse ou du fait de vivre en société. Il y a des choses qui nécessitent forcément une communication fine et probablement du langage.
Il ne faut pas formuler la question comme ça quand on est dans les théories de l'évolution. Non, mais je me permets.
Non, mais vous avez
très, très, très souvent, non, parce que trop souvent, on se dit ils ont besoin de ça, donc la capacité apparaît. Il faut toujours se rappeler, lorsqu'on est dans l'évolution, qu'il y a une dissociation entre l'émergence des caractères et ensuite leur captation en termes d'adaptation. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme darwinien. Les caractères apparaissent d'abord et ensuite ils sont sélectionnés ou pas. Et par exemple, les grandes aires du langage qui sont sur le cerveau gauche autour de l'aire pariétale et temporale ne sont pas apparues parce qu'il y avait besoin d'une vie sociale plus complexe ou de faire des outils.
Oui,
et
la non,
symbolique...
bien sûr.
Non, non, mais ça, je le précise. Mais par contre, ce qui se passe, et ça, c'est assez extraordinaire, on a bien compris ça depuis une trentaine d'années, enfin, en tout cas mieux, il se trouve que les premiers vrais hommes, vers 2 millions d'années, sont plus grands d'une manière corporelle. Donc, pour des raisons simplement de contraintes morphologiques, toutes les parties du corps sont plus ou moins grosses. Pas en proportion, mais en tout cas, sont toutes plus grosses. Et donc, on s'aperçoit que les aires pariétales vont se développer de manière passive. Et justement, elles sont au carrefour de toutes ces actions cognitives. Alors, après ça, ces capacités étant potentiellement là, eh bien, ils vont ensuite avoir des facteurs sélection. Ça n'aurait pu jamais se faire et ça s'est fait. Donc, il faut toujours dissocier les deux. Et c'est comme ça que ça s'est développé par la suite.
Christophe Coupet.
Je pense qu'en fait, quand on parle de l'origine du langage et de l'origine des langues, une des difficultés pour étudier et essayer de relier ces deux phénomènes-là, c'est quand on recherche les origines de la fonction de langage, donc une fonction qui est partagée par tous les êtres humains aujourd'hui sur la Terre, quelle que soit la culture dans laquelle ils sont émergés. On va regarder ce que nous livre la préhistoire, le registre archéologique, on va voir des traces de rites funéraires, de premières traversées maritimes, de premiers outils. Quand on cherche l'origine des langues...
Veut dire qu'une première traversée maritime supposerait que, par exemple, les hommes qui ont fait cette traversée
voilà,
parlaient, par exemple.
Le jeu, en fait, des personnes qui travaillent sur l'origine du langage est toujours un peu spéculatif. C'est un peu la difficulté, c'est qu'on va partir de comportements dont on trouve des traces dans le registre archéologique.
Ouais.
Donc, on passe de traces matérielles à des comportements. Et à partir de ces comportements, on essaie de réfléchir à ce qu'ils sous-tendaient, à ce qu'ils nécessitaient. Est-ce que pour traverser une grande étendue d'eau, on a besoin de construire une embarcation qui soit assez solide, par exemple. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça signifie en termes de capacité à communiquer, à planifier le voyage, à construire une motivation pour effectuer un voyage comme ça ? Voilà le genre de
Donc
travail qu'on va faire.
Une migration, par exemple, une grande migration, nécessite a priori de communiquer.
Qu'on peut se poser,
on peut se poser la question.
Et on peut toujours être sûr qu'il va y avoir des arguments pour et des arguments contre. Et quelque part, c'est un jeu où il y avait une balance, vous mettez des arguments pour, des arguments contre, et puis vous essayez de voir si la balance, elle penche un peu plus vers le pour que vers le contre.
Alain Kim.
Oui, ok. Tout à fait intéressant, c'est que toutes ces questions-là dont on vient de discuter, en fait, ont agité aussi le domaine qui est le mien, c'est-à-dire celui des langues créoles, c'est-à-dire non pas des événements qui sont passés il y a 100, 200 000 ans, mais des choses très récentes qui sont passées à partir du 15e siècle. C'est-à-dire qu'on a aussi, par exemple, la question de savoir si la phylogénèse et l'ontogénèse se repliquent l'une l'autre a été soulevée, en ce sens qu'il y a... Bon, les années 70 ont été beaucoup dominées par une théorie selon laquelle les créoles sont en quelque sorte l'expression spontanée, immédiate, d'une sorte de faculté, d'une grammaire innée avec laquelle on naîtrait, qui serait câblée dans notre cerveau. Et la raison en étant que, censément, Enfin, tout ça s'est passé, si vous voulez, dans des situations... À l'origine de beaucoup de créoles, vous avez, c'est bien connu, la traite des esclaves, la traite des Noirs, tous ces gens qui ont été déportés d'Afrique, qui ont été emmenés dans des îles, dans des plantations, où ils avaient... Mais c'est une vision assez caricaturale, je vous le dis tout de suite, mais je vous explique la démarche. C'est-à-dire, donc ces gens n'auraient eu aucune communication possible entre eux, donc ils ont été obligés d'inventer des moyens un peu ad hoc pour communiquer. Qui, paraît-il, n'était pas vraiment du vrai langage. Donc quelque chose que les enfants qui sont nés de ces gens-là ne pouvaient pas apprendre, parce que ce n'était pas conforme, à ce qui est à la faculté de langage avec laquelle on est. C'était un autre système.
Ça, c'est la théorie des années 70.
Là, c'est que vous 70, critiquez. 80, voilà. Ça a été défendu en particulier par un chercheur américain qui s'appelle Bickerton. Et donc, le créole, ce serait en quelque sorte, les enfants prennent leur revanche. Qu'est-ce que c'est que ce jargon que nos parents nous parlent ? On va arranger ça. Et ils le remettent en forme en fonction de leur faculté de langage. Alors, c'est une théorie qui est maintenant extrêmement discutée, parce qu'en fait, on s'est aperçu, mais ça aussi, c'est sans doute pertinent pour ce qui s'est passé il y a 100 000 ans, que cet effet, si vous voulez, de création, d'émergence d'une nouvelle langue, parce que c'est ça, un créole, c'est une nouvelle langue, on peut aussi bien et sans doute mieux l'expliquer en supposant que d'une part, les gens qui ont créé... Les stratégies, si vous voulez, d'apprentissage d'une langue seconde sur le tas sont relativement uniformes. En fait, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, en particulier dans les milieux immigrés dans les années 80-90. Donc, on sait que quand quelqu'un est obligé d'apprendre sur le tas une langue seconde, parce qu'il est obligé, c'est ça, il emploie un certain nombre de stratégies qui sont relativement
similaires,
uniformes à travers le temps, l'espace, etc. Et que, par ailleurs, l'expansion ensuite s'explique aussi très bien par la nécessité, par le fait que ces gens, en fait, une fois déportés, ils sont là. Ils construisent une nouvelle société, donc ils ont besoin de toutes les ressources expressives d'une véritable communauté linguistique. Et c'est l'expansion des ressources. Ça...
Alors, c'est très intéressant parce que j'ai cru comprendre en vous lisant et en préparant cette émission, Pascal Pic ou tous ceux qui sont autour de cette table, que c'est une question vraiment en débat depuis une vingtaine, une trentaine d'années, cette question à nouveau en débat, origine des langues, origine du langage, que la conjonction entre les deux, qu'en plus, aujourd'hui, on travaille sur la question des migrations, des réchauffements climatiques, que le réchauffement climatique pose des questions de savoir si les gens partent à un endroit, est-ce qu'ils ont justement besoin, comme le disait Christophe Coupé tout à l'heure, de parler une langue, de s'exprimer d'une façon particulière, etc. Et que tout cela était profondément bouleversé depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, Pascal Pic. C'est vrai,
oui,
ça ?
Oui, parce que les travaux... Il y a eu deux choses. On a beaucoup plus parlé, d'ailleurs, des origines des langues. notamment en relation avec les origines de notre espèce Homo sapiens, qui vient d'Afrique. D'ailleurs, c'est une très belle histoire. Ça se passe dans les années 1990. Monsieur Luigi Cavalli-Sforza, un généticien, je crois que c'est à Berkeley, il va visiter ses amis du laboratoire de linguistique. Puis il leur dit, tiens, vous travaillez sur notre arbre de relations de parenté des gènes. Il dit, non, qu'est-ce que tu racontes là, c'est nos arbres de parenté des langues. Et les deux arbres se superposent. Pourquoi? Bah, parce que les peuples se déplacent avec leur langue et leur gène. Alors, ce n'est pas le gène qui donne une langue. Et par exemple, l'œuvre de Lévi-Strauss n'est pas terminée. Ils se déplacent aussi avec leur mythe, hein, et avec des histoires. Donc, on revient à ce qui a été dit tout à l'heure.
Qu'aujourd'hui, on fait du transdisciplinaire, du pluridisciplinaire, pour pouvoir s'entraider, alors qu'auparavant, on travaillait séparément, linguiste d'un côté, paléo-anthropologue de l'autre, etc.
Alors, il y avait aussi pendant longtemps, parce que les sciences humaines, pendant longtemps, étaient très rétives à l'idée de l'approche des sciences de l'évolution. En fait, on a des mécanismes d'analyse qui sont similaires. Mais je rappelle que quand même, l'origine d'une véritable réflexion sur une évolution commune, une origine commune, pardon, de la diversité des langues, ça commence au milieu du 19e siècle. Et Darwin était très inspiré par là. C'était très structurant, justement, pour les théories de l'évolution. Donc, on a retrouvé des choses par rapport à ça. Alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les langues disparaissent rapidement, on le sait aujourd'hui. Monsieur Agège en parle beaucoup. Mais ça permet de reconstituer une histoire. Donc ça, il y a les origines des langues et le peuplement de la Terre par Homo sapiens. Mmh. Et la question du langage, elle est plus ancienne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dissociée de la langue, mais après là, on n'a plus d'informations. Ouais. C'est très clair.
Il y a un grand trou, expliquer à nos auditeurs, Christophe Coupé, qu'il y a un grand trou temporel. C'est-à-dire qu'en gros, si on fait de la génétique des langues, enfin, si on remonte dans l'histoire des langues, de la linguistique historique, comme on dit aujourd'hui, on remonte quoi, 8000 ans? Il y a 8000 ans, quelque chose comme ça. On sait à peu près, on peut imaginer en tous les cas comment, en refaisant le chemin inverse, les langues ont évolué jusqu'à 8000 ans de maintenant. Mais en revanche, pour ce qui est de la capacité du langage, il y a 100 000 ans, quelque chose comme ça, on ne sait pas très bien.
Ah, c'est plus, hein.
C'est plus encore. Ça, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a tout cet espace de temps sur lequel on ne sait pas grand-chose. Et il y a pourtant des gens qui inventent des choses, comme Mary Trulen, qui tente d'inventer une langue commune qui serait dans ces lointains que nous ne connaissons pas, Christophe Coupé.
Donc pour fixer les choses, quand on parle de l'origine de la faculté de langage et de son développement au cours de la préhistoire, on parle de notre espèce Homo sapiens, c'est 100-150 000 ans pour son émergence, 200 000 ans, on n'est pas à quelques dizaines de milliers d'années près. Et puis, on remonte à Homo habilis, peut-être aux êtres qui ont précédé les représentants du genre Homo. Là, on est sur 2 millions d'années, 3 millions d'années, peut-être même un petit peu plus. Quand on parle de la naissance des langues, traditionnellement, ce qu'on a fait en linguistique, c'est qu'on compare les langues actuelles et à partir de ces langues-là, on remonte progressivement dans le passé. Et quand on remonte dans le passé, comme ça, plus on remonte, plus on s'enfonce dans la brume, d'une certaine façon. Parce qu'il y a des glissements des sons, il y a des glissements de sémantiques, des glissements des sens des mots, qui fait que quand on remonte au fur et à mesure dans le passé, il n'y a pas besoin d'avoir des textes, puisque la plupart des langues aujourd'hui, de toute façon, ne sont pas des langues écrites. Juste en comparant différentes langues, les formes des mots, les variations qui sont régulières entre ces mots, on peut remonter dans le passé et avoir une assez bonne idée de langue qui était parlée il y a 2000, il y a 3000 ans. Mais plus on remonte, plus ça devient difficile. Et la plupart des linguistes s'accordent sur le fait que avant 6, 8, 10 000 ans avant aujourd'hui, la brume elle est trop épaisse, on ne peut plus vraiment dire grand-chose. Mais il y a des tentatives, comme celle de Mary Trulen, qui dit, moi je compare un grand nombre de langues, pour faire simple, je compare un grand nombre de langues à la fois, et il y a des ressemblances qui ressortent nettement pour moi, et à partir de ces ressemblances-là, j'arrive à accéder à quelques mots d'une langue originelle dont viendraient toutes les langues.
Oui, alors c'est ça, c'est donc la recherche de l'origine de la langue, la langue mère d'une certaine façon, c'est-à-dire en gros, on est quand même dans une idée qui est une idée qui remonte au moins au Moyen-Âge, c'est-à-dire sinon peut-être à la Bible avec le mythe de Babel, hein, par exemple.
C'est une question, l'origine des langues, qui traverse l'histoire des idées. Par contre, cette question-là, si on remonte il y a 1000 ans, elle s'inscrit dans un cadre qui est plutôt, en Europe en tout cas, dans un cadre qui est plutôt marqué par la religion. Aujourd'hui, c'est une question qu'on travaille plutôt avec des outils scientifiques. Mais elle est là depuis longtemps, la question.
Périne Cabran.
Et si on revient, Christophe Coupé, à cette question de l'origine du langage, peut-être il faut mettre en place un décor pour qu'on voit à peu près comment vous travaillez, comment ça commence. Il y a les capacités physiques qui permettent de parler, qui n'arrivent pas tout de suite, qui arrivent à un certain moment. Alors, quelles sont ces capacités physiques, physiologiques, et puis des capacités génétiques, culturelles, enfin, qui permettent aussi de construire quelque chose qui serait un langage.
Christophe Coupé, Pascal Pic, et puis Alain Kim ensuite.
Je pense qu'on peut distinguer deux types d'origines. Une première chose, c'est qu'aujourd'hui, alors même s'il n'y a pas que des langues parlées, aujourd'hui, quand on parle de langue, la forme, c'est une forme parlée, même s'il y a des langues des signes qui fonctionnent tout aussi bien que les langues orales. Donc on peut s'intéresser à l'origine de la langue orale. Quand est-ce que se sont mis en place les caractéristiques physiologiques, les conditions pour le fait qu'on parle en utilisant notre tractus vocal et notre système de perception auditive. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que l'origine du langage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui proposent aujourd'hui, et c'est pas bête, que les premières langues, par exemple, auraient pu être des langues manuelles, des langues des signes. Et dans ces cas-là, il peut y avoir origine d'un système de communication sophistiqué, mais qui ne passe pas par l'oral.
Eh oui.
Donc déjà, on peut dissocier le problème, et ça complique encore un peu les choses.
Pascal Pic.
Deux choses là qui sont importantes. Tout de même, lorsqu'on parle d'origine du langage, la tentation est de nous dire, tiens, il y a quelque chose en plus de complètement nouveau. Or, l'évolution, c'est des bricolages. Donc, il est intéressant d'aller voir ce qui se passe chez l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle, qui sont les chimpanzés, mm-hmm. et de regarder quelles sont les caractéristiques que l'on croyait exclusives du langage humain, qu'on retrouve aussi chez eux. Donc, c'est pour ça que je fais ce livre, pour m'amuser aussi, mm-hmm. « L'homme est-il un grand singe politique ?» parce qu'Aristote disait « L'homme est un animal politique mm-hmm. grâce au langage ». Or, les chimpanzés font de la politique sans langage. Le langage est un mode de communication tellement puissant qu'en fait, il a superposé, investi tous les autres modes de communication gestuels et comportementaux. Mmh. Donc du coup, souvent l'erreur que l'on commet, c'est d'attribuer au langage, il y a eu des tas de définitions comme Hockett en 1958, il faisait une liste de tout ce que nous permet le langage en termes de communication, mais dans la foulée d'oublier que le corps et la gestuelle peuvent le faire. Donc ce n'est pas nier la puissance du langage, mais du coup, cette évolution, c'est des bricolages. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder et qui est accessible d'un point de vue de la génétique ? Ben, il y a une famille de gènes qu'on appelle les gènes de FOXP2, qui est un gène, en fait, qui n'est pas le gène du langage. C'est un gène chef d'orchestre qui régule les questions de communication, même chez les oiseaux, d'ailleurs. On parlait du chant tout à l'heure, rapidement. Et on sait que quand ce gène ne va pas bien, ça induit des dysfonctionnements à la fois cognitifs et morphologiques. Alors, c'est important, ce gène-là, parce que ça veut dire que dans l'évolution, ça semblait un peu miraculeux, qu'arrivent en même temps des modifications de la partie moyenne du cerveau, où il y a les aires du langage pour faire ça, Broca, Wernicke, et puis autres, et le larynx qui se déplace. Parce qu'évidemment, c'est la raison mécanique. Il y a deux choses. Il faut le produire, ce langage, d'un point de vue cognitif. Et ensuite, il faut le produire d'un point de vue mécanique. Pratique. Donc, ça semblait un petit peu miraculeux que chez Homo erectus arrive en même temps tout cela. Ben, ce gène nous dit que le corps, il y a des contraintes de construction. Et vous avez des gènes qui vont modifier à la fois toutes ces parties que nous, on connaît bien.
Ensemble, simultanément.
Et ce n'est pas fait pour le langage. Simplement, ça va être utilisé par la suite. Alors, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, chez Néandertal, on a accès maintenant à une partie du génome de Néandertal. Il y a un gène FOXP2, comme chez l'homme.
Ah bon. Donc la théorie du néandertalien chantant pourrait être une théorie qui correspond. Ils pourraient chanter le néandertalien.
Attendez, ils enterraient leurs morts, ils avaient la symbolique, ils se maquillaient, ils avaient la symbolique. Forcément, ils avaient du langage. Alors comme Néandertal et nous, on se sépare vers 500 000 ans, ça veut dire que l'ancêtre commun avait déjà ses caractéristiques.
Ouais.
Hein, et donc les plus anciennes tombes, c'est 400 000 ans en Espagne. On n'enterre pas des gens avec des objets symboliques, sans discours, sans récit sur le monde. Hein, tout ça est beaucoup plus ancien. Et l'autre chose, au niveau de l'anatomie, tout à l'heure, M. Copé a parlé de Homo habilis. On a sur les cerveaux, les boîtes crâniennes, on a les empreintes du cerveau qui montrent que les aires du langage étaient déjà développées chez eux et beaucoup plus par la suite. Donc, premièrement, la génétique confirme cela. La comparaison entre les espèces d'hommes nous confirme. On a des raisons anatomiques de montrer cela. Et par exemple, l'innervation du larynx, c'est très compliqué. Mm-hmm. Hein, parce qu'on parlait des enfants tout à l'heure. Les jeunes enfants babillent parce que le larynx est situé très haut dans le pharynx. Mm-hmm. Et au cours de
notre... Il descend.
Il descend. Donc là, ça veut permettre de prononcer les voyelles. Eh bien, on a, là, on le retrouve sur les squelettes, l'innervation de la partie de la colonne vertébrale, donc cervicale, qui correspond au pharynx et au larynx, est beaucoup plus sophistiquée et développée chez ces premiers hommes. Donc, condition nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus ce qu'il parle. Donc, tout ça arrive à cette époque-là. Et puis, la troisième raison, je l'ai évoquée tout à l'heure, l'archéologie. Est-ce qu'en effet, ils avaient des productions archéologiques, artistiques, symboliques, qui sont liées à un langage ? Voilà comment on arrive à avancer, pour nous, les paléanthropologues. Et c'est déjà pas mal.
Mais toujours dans la discussion avec les autres disciplines scientifiques.
Absolument.
On ne peut pas s'en empêcher maintenant, c'est
évident,
ça.
Oui.
Alain Kivi.
Oui, deux points. D'une part, je voudrais revenir sur la question du vocabulaire, enfin du vocabulaire du proto-humain, comme dit Roulen, de ces mots qu'il essaye de reconstituer. Par exemple, un mot que Roulen reconstitue, si je ne me trompe pas, c'est tic, qui veut dire, selon lui,
le doigt ou le un.
Alors, prenez le mot. Alors, Une objection que les linguistes n'ont pas manqué de faire à ce genre de reconstruction, c'est que si vous prenez le mot français « doigt », qui s'écrirait des WA si l'orthographe française était raisonnable, « doigt », ça vient du latin « digitem ». Ouais. C'est pour ça qu'on écrit GT d'ailleurs. Digitem. Bon, alors effectivement, digitem, ça ressemble un petit peu à tic. Cela dit, digitem, c'est lui-même l'héritier d'une évolution de 3000 ans qui nous ramène au proto-indo-européen, qui lui-même, etc., etc. Si vous remontez 100 000 ans en arrière.
Qu'est-ce qu'on peut en savoir ?
Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? À quoi pouvait bien ressembler l'étymon et final de digitem il y a, disons, même pas 100 000 ans, il y a 30 000 ans, disons, au moment des Cro-Magnons. Donc ça déjà, bon, c'est une critique qui, je crois, porte assez, qui ne met pas totalement en cause l'entreprise de Roulaine, mais enfin qui montre qu'il faut être extrêmement prudent. Et alors ça pose un autre problème et qui m'amènerait à, je pense qu'on parle de naissance des langues. Je pense que le mot naissance est induit en erreur.
Ah mais bien sûr.
C'est un gros problème.
On admet cette idée.
Parce que si on se pose la question de savoir quand naît une langue, prenez par exemple le français. Quand est-ce que pouvez-vous me dire à quelle date le français est né ? À quel moment en Gaule on a cessé de parler latin et on a commencé à parler français ? C'est tout à fait indécidable. C'est une fenêtre d'au moins 500 ans. Avec un passage extrêmement graduel et en plus, on n'a pas de documents. Enfin, c'est un peu peu de documents. C'est une ère assez noire de l'histoire. Mais c'est un passage en tout cas extrêmement graduel entre le latin impérial, disons, le latin vulgaire, le gallo-roman. Quelque chose qui commence à ressembler du français, puis à partir du XIIe siècle, du français. Mais il semble pas qu'il y ait de solution de continuité. C'est ça le problème. Alors c'est en ça, si vous voulez, j'en reviens à mes fameux créoles. C'est en ça que les créoles avaient l'air, pourraient être intéressants et ouvrir un peu nous donner des idées peut-être plus précises sur quelque chose comme la naissance d'une langue. Parce que là, dans les créoles, c'est la grosse différence avec les langues non créoles, disons, c'est que la fenêtre, c'est pas trois siècles, c'est pas quatre siècles, c'est une génération, deux générations.
Deux générations, c'est la naissance d'une langue en très peu de temps.
En très peu de temps, d'un processus accéléré. Et un processus accéléré, forcément, le temps que met un processus fait partie inhérente du processus lui-même. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes particuliers qu'il est important d'explorer.
Perrine Caron.
Oui, parce que alors, si on continue à faire un peu comme ça de la fiction historique, alors voilà, on imagine qu'ils ont les capacités, pas forcément l'utilité, mais en tout cas, ils ont les capacités. Et puis alors... À votre avis, parce que c'est quand même fabuleux de pouvoir comme ça rêver un peu, puisque bon.
Généralement, les historiens,
ce sont des choses sérieuses.
Quand même. Ah non, mais on sait bien, mais quand même, est-ce que. Alors voilà, il y a un mot qui jaillit, est-ce que c'est des sons, est-ce que. À votre avis, comment. Alors c'est impossible de répondre totalement, bien sûr, c'est une question un peu naïve, mais voilà, comment est née alors cette ébauche de langue, ces premières communications verbales, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec, bien sûr, un fondement sérieux ?
Pascal Pic et puis Christophe Coupé. Pascal Pic.
Là, je laisse mon collègue y aller d'abord.
C'est bien difficile de répondre à une question comme ça. Ce qui a été proposé, voilà. Ce qui a été proposé
la
par
question
par
certains, est peut-être naïve, ouais. Mais difficile en tous les cas.
Ce qui a été proposé par certains linguistes, c'était d'essayer d'imaginer une langue initialement sans syntaxe. Donc, il serait plutôt une langue avec des mots. Mais
des mots accolés les uns aux autres.
Voilà, qui font référence
sans
à des événements, des objets de l'environnement, mais où il n'y a pas quelque part cette capacité de les lier entre eux pour construire du sens supplémentaire. D'une façon générale, par exemple, souvent, si on regarde un peu les publications dans les 20-30 dernières années, on a souvent cherché à dissocier ou à rapprocher l'homme de Néandertal d'Homo sapiens, de notre espèce, parce qu'on s'est rencontrés en Europe, parce que c'est en Europe peut-être qu'on a aussi beaucoup de sites archéologiques, qu'on a beaucoup travaillé. Et. Quelque part, une de nos difficultés, c'est peut-être d'arriver à penser un peu l'altérité d'une autre espèce que la nôtre, l'homme de Néandertal. Pendant longtemps, on a peut-être pensé que c'était plutôt une espèce qui était très éloignée de nous, qui était beaucoup plus primitive, entre guillemets, mm-hmm. avec tous les guillemets qu'on peut
bien
mettre.
Sûr.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils avaient des capacités symboliques, qu'ils enterraient très vraisemblablement leur mort, etc. Donc, on les rapproche de nous. Ce n'est pas notre espèce, même si on se pose un peu la question de si on pouvait avoir une descendance commune. Ils sont très proches de nous, ils ne sont pas nous non plus. Aujourd'hui, on est tout seul en tant que représentant du genre homo et on a du mal à penser cette altérité et on peut se poser cette question-là pour le langage. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui parce qu'on est tellement, le langage infuse tellement toutes nos activités, d'imaginer un système de communication qui fonctionnerait, qui serait très sophistiqué, qui permettrait...
Mais qui serait pas celui
mais qui serait très différent du langage. Ça, c'est un peu difficile de conceptualiser quelque chose comme ça. Et ça pose peut-être des soucis quand on essaie de remonter dans la préhistoire.
Pascal Pic.
Oui, alors il est vrai qu'on a beaucoup changé le regard sur Néandertal, surtout l'école française au passage. Et par exemple, je l'ai dit, les plus anciennes traces de sépulture, c'est Atapuerca, donc au nord de l'Espagne, 400 000 ans. Donc déjà, nous c'est simple, nos rêves arrivent de façon un petit peu simpliste, mais c'est comme ça que nous fonctionnons les scientifiques. Mmh. Si on s'aperçoit qu'on a les mêmes caractéristiques chez deux espèces sœurs, donc au moins potentiellement c'était chez l'ancêtre commun. Donc ça nous amène déjà donc, à plus de 500 000 ans, 600 000 ans, 700 000 ans. Alors par exemple, avec mes copains linguistes, mes collègues, il y en a qui disent oui, le langage a d'autres caractéristiques qu'on n'a pas dans les autres modes de communication gestuelle ou corporelle. Hein, quand je dis que les chimpanzés font la politique, c'est pas une caricature. Ils ont des stratégies, de l'empathie, de la sympathie. Ils sont capables de se représenter l'autre, théorie de l'esprit, de manipuler, le mensonge, etc. Donc déjà, vous voyez, tout ça, ça passe pas vraiment par le langage tel que nous le pratiquons. Mais dans cette affaire, il y a par exemple la fonction argumentative. On s'aperçoit, par exemple, chez les babouins, lorsqu'il faut prendre une décision pour suivre une direction de manière à aller chercher des nourritures, il y a un espèce des comportements, il y en a qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. Est-ce qu'on peut parler de fonction argumentative ou autre? Donc du coup, ça devient extrêmement difficile de dire que le langage est apparu pour cela, parce qu'on s'aperçoit qu'en définitive, dans l'éthologie, le comportement des singes, notamment des grands singes,
on peut aussi faire autrement.
Il y a des bases de caractère. Alors les mots, par exemple, pour parler des mots, une expérience célèbre avec les singes vervets qui ont inventé trois cris, on peut dire trois mots, un qui désigne donc effectivement voilà un prédateur aérien, donc c'est un aigle, un prédateur qui rampe, c'est un python, ou un prédateur qui arrive à toute vitesse, ça c'est un léopard. Donc, mais là, on ne veut pas parler de langage, mais ils sont capable d'avoir des conventions. Et ça, c'est des processus de variation-sélection. C'est assez darwinien hein, dans les mécanismes. Hein. La manière d'apprendre une langue, les jeunes enfants, alors là, sous votre contrôle hein, de mes collègues, les jeunes enfants, au départ, ils naissent avec la capacité d'apprendre n'importe quelle langue, et sans accent. Mais petit à petit, dans l'environnement qui les entoure, et c'est pour ça que les Français, souvent, c'est ce qu'on dit en tout cas, ne sont pas très bons pour les langues étrangères. On a une langue qui est extrêmement monotone. Effectivement, toutes les intonations, etc., sont vite éliminées. Donc, les enfants font ça. Donc, vous avez l'environnement qui va les sélectionner sur les aptitudes que vous avez là. Maintenant, en ce qui concerne ces nécessités, on s'aperçoit que la capacité d'évoquer des obligations, par exemple, des obligations morales, ceux de dire voilà, il s'est passé tel événement, de rapporter des faits, de raconter des histoires, la fonction narrative. Et ça est certainement la fonction que nous avons, nous. Alors, on se pose des questions chez les grands singes, est-ce qu'ils peuvent raconter une histoire en ayant appris notre langage? C'est l'objet d'ailleurs, l'année dernière, du film que j'aime beaucoup d'ailleurs, La planète des singes, 2011. Mais en l'occurrence, la capacité de raconter une histoire, c'est-à-dire de raconter le monde, apparemment, ça n'existe que chez nous. Mais ça ne veut pas dire que le langage est apparu pour ça.
Alain Kim, alors, si on poursuit cette discussion.
Oui, je poursuis cette discussion. Ce qui est intéressant, c'est que les linguistes font de plus en plus, il me semble, ceux qui s'intéressent à l'origine du langage font de plus en plus une différence entre le langage et le langage complexe. Et je pense que c'est une différence qu'il faut faire, parce que bon, le langage simplement, ça correspond un peu à la vision naïve de la chose, ça pourrait être un système, un peu comme le décrirait Pascal Pic, le système des vervets, qui, bon, pour vous signaler, tiens, il y a un prédateur.
Un cri pour ça, attention, un cri pour ça. Voilà,
beaucoup plus complexe, évidemment, chez les humains, parce qu'on vit dans des sociétés plus complexes, et on a peut-être des messages plus complexes à communiquer, mais qui seraient quand même du même ordre. Ça, c'est le langage tout court. Le langage complexe, c'est quand même un saut, c'est autre chose. Le langage complexe, ça inclut par exemple des choses comme des contrefactuels, des temps du verbe qui permettent de dire des choses qui n'existent pas, de construire des histoires imaginaires. Mm-hmm. D'accord,
de construire du mythe.
De construire du mythe, etc., de se raconter des choses, etc., qui semblent absolument indispensables à l'être humain. On ne peut pas, il ne semble pas qu'on puisse vivre sans ça. Donc la question qu'on pourrait se poser, là je suis un peu en dehors de ma spécialité, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi sert des choses, de pouvoir faire des choses aussi compliquées, en plus avec des systèmes aussi compliqués, d'accord, dans une société de chasseurs-cueilleurs dont on pourrait imaginer, d'un point de vue purement pratique, qu'elle n'a pas énormément de problèmes à résoudre, sinon trouver de la nourriture, de quoi boire, etc. Alors pourquoi cette nécessité absolue de se raconter des histoires Alors je ne dis pas que le langage complexe est apparu pour faire ça, mais le fait que, sans doute par une suite de hasards, que la possibilité en ait été donnée, est corrélé au fait qu'on peut aussi faire ça et que c'est apparemment absolument indispensable pour notre survie.
Brièvement, Pascal Pic et Christophe Coupé sur cette question qui est posée par...
Il y a une nécessité ontologique et symbolique chez l'homme qui est tout à fait claire. Moi, je l'ai fait remonter à 2 millions d'années, pas tout seul avec mes collègues, dans un ouvrage d'il y a quelques années. où justement j'avais demandé de regarder quelles étaient les implications esthétiques, émotionnelles, cognitives autour des premiers objets comme les bifaces, qui sont absolument magnifiques, il y a un érotisme autour de cela. Et donc effectivement, moi je crois que le propre de l'homme, et pourtant on m'accuse souvent d'avoir contribué à le démonter avec toutes les études sur les chimpanzés, enfin de mes collègues, je ne suis pas tout seul, mais en l'occurrence, oui, cette fonction d'une médiation sémantique avec l'environnement qui nous entoure est une caractéristique de l'homme qui remonte bien avant notre espèce. Et ça, c'est une nécessité ontologique sans laquelle on ne peut pas vivre, ça c'est très clair.
On a fait remarquer une chose amusante, il me semble, c'est que essayer, par exemple, d'expliquer comment faire un nœud au téléphone. Le langage est très mal équipé pour faire ça. Par contre, il est extrêmement bien équipé pour raconter des histoires. Mais donner des instructions sans qu'on puisse montrer par des gestes.
Christophe Coupé.
Est-ce que je peux juste ajouter pour quand on recherche justement les origines du langage en lien avec le fait de pouvoir parler, par exemple, de quelque chose qui n'est pas ici et maintenant. Quand on pense aux représentations sur les parois des grottes ornées, quand on pense donc à ces histoires de traversées maritimes où on se demande pourquoi des êtres humains prennent un bateau pour construire une embarcation et vont franchir 90 km ou 100 km en haute mer, alors que c'est une entreprise considérable. Cette idée de pouvoir parler de quelque chose qui n'est pas ici et maintenant, ce qu'on appelle la capacité de déplacement parfois, si on pense au système de communication, il faut un système de communication vraisemblablement. Voilà, on est capable de se projeter, on est capable
dans
de construire.
Dans le temps et dans l'espace.
Voilà, oui. Et quand on pense au comportement qu'on retrouve dans le registre archéologique, il y a souvent à voir avec cette capacité que nous offre le langage.
Mais j'ai cru comprendre en vous lisant tous qu'il y avait vraiment un vrai bouleversement. Ce bouleversement, il est dû à quoi? Il est dû au fait que vous vous êtes mis à travailler, peut-être pas les trois qui sont autour de cette table, mais au moins deux d'entre eux, à travailler ensemble, à faire sauter les barrières disciplinaires, à vous dire « je ne reste pas sur mon précaré » et que d'un seul coup, comme le disait tout à l'heure Pascal Pic, eh bien les schémas se recoupent et que d'un seul coup, on se dit bah, « tout compte fait, ça vaudrait vraiment le coup, on pourrait apprendre plus et plus rapidement si on travaille tous ensemble », Christophe Coupé.
Il y a la belle histoire de Luigi Cavalli-Sforza où effectivement, on compare les arbres des distributions génétiques, enfin les arbres génétiques et les arbres linguistiques, et on se dit « ça se ressemble beaucoup, alors ça se ressemble beaucoup et en même temps il y a des différences et c'est intéressant de les étudier. Mais effectivement, peut-être institutionnellement, par exemple en France, au tournant des années 2000, il y a eu des programmes de recherche où il y a vraiment eu cet accent qui a été mis sur la collaboration.
Il y a le programme de recherche de Jean-Marie Humbert.
Voilà, par exemple, origine de l'homme, du langage et OHLL, origine de l'homme,
De langage et des langues.
Et langues, et voilà.
Périne Carvent.
Sachant, j'ai lu en préparant l'émission que c'est quand même une discipline, cette histoire du langage et des langues qui a induit beaucoup de conflit, puisque j'ai lu en 1866, il y avait un tel conflit qu'on a interdit toute communication sur la naissance de la langue à la Société linguistique de Paris.
C'est en grande partie une légende.
J'adorais pourtant, ça me plaisait tellement cette histoire.
L'interdiction a été dite, mais elle n'a jamais été inscrite dans les chassus que je sache, et elle a duré très peu de temps.
Une dizaine d'années. Pourquoi est-ce aussi compliqué? Parce qu'évidemment, on touche aussi à la question de l'origine de l'humanité, on touche aussi à la question de la théorie de l'évolution, etc. Tout un tas de choses sur lesquelles tout le monde n'est pas forcément d'accord.
N'oubliez pas non plus que la fin du 19e siècle, c'est aussi l'époque de certaines théories un peu délirantes. Je vous rappelle Jean-Pierre Brisset, pour qui le langage est né dans les mares à grenouilles.
Ça nous ouvre des horizons.
Et que le mot français sexe s'explique par quexexa, qui lui-même remonte directement au coassement des grenouilles.
Oui, c'était la Société d'anthropologie de Paris, et effectivement, parce qu'il y avait des vrais délires idéologiques. C'est-à-dire que dès que vous touchez aux sciences du passé, vous voyez débouler les idéologies de revendication. Donc, ils ont voulu se dégager de cela. Mais il y avait une méthodologie qui est intéressante, qui naissait. Donc, c'est important. Moi, ce que j'aime à dire, par exemple, c'est que trop souvent, on a regardé les questions des origines comme une réponse à une nécessité. Donc j'ai bien répondu tout à l'heure, les caractères n'apparaissent pas parce qu'on en a besoin. Ils sont sélectionnés parce qu'il faut qu'ils apparaissent d'abord. Et ça, sans cause. Ça nous trouble. Maintenant, ayant précisé cela, lorsqu'on parle, c'est des hypothèses de Jean-Marie Humbert notamment, les hommes qui vont en Australie. Il n'y a eu qu'une seule vague. On dit, bon, il y a un petit groupe qui s'est fait coincer, ils ont dérivé, ils sont arrivés en Australie. Non, il y a eu plusieurs vagues. Ça, c'est les langues qui nous le disent, la linguistique historique. Alors, ils savaient naviguer. Les hommes naviguent depuis 100 000 ans. Et donc, je vais évoquer Eric Orsenna. Un jour, nous parlions de cela, et il a écrit un livre sur Christophe Colomb. Il dit, voilà, il n'a pas convaincu un roi de soutenir son projet parce qu'il avait toute la fiche technique. J'ai des bateaux, j'ai des connaissances, on va y aller. Non, il a convaincu un roi parce qu'il lui a raconté une histoire en disant que, en fait, le souverain qui soutiendra un tel projet, et si ce projet aboutit, sera dans la légende des siècles. Donc au bout d'un moment, il faut bien comprendre que les grandes aventures humaines, c'est avant tout des récits, comme ça a été dit à l'instant. Et bien comprendre que nous sommes motivés par ces grandes évocations. Alors c'était un des paradoxes à l'époque de Darwin. Parce que on s'aperçoit que le co-inventeur de la sélection naturelle, qui s'appelle Russell Wallace, qui était, lui, invente le terme de darwinisme. C'est-à-dire qu'en fait, tous les caractères doivent être adaptatifs. Tout doit correspondre à une adaptation, à la société de l'environnement. Et puis on arrive à l'homme. Merde, pourquoi ce gros cerveau, avec ce langage, avec ces récits, comme ça a été évoqué? Et du coup, il est tellement matérialiste qu'il bascule dans le spiritualisme. C'est quand même paradoxe. Et donc, faut bien comprendre que l'évolution, c'est pas une économie ciselée des nécessités du plus apte. Ça marche pas comme ça. Une espèce de non pas de générosité, ça serait une interprétation.
Ce que vous dites, mais de bricolage.
C'est des bricolages. Et puis là, ce qui fait vraiment le genre homo et certainement homo sapiens, c'est cette idée de se projeter dans des grands récits qui ont fait l'humanité, quoi.
Périne,
et d'ailleurs, j'ai lu aussi dans en préparant cette émission une hypothèse, alors qui est assez poétique, sur la question, voilà, de ce récit qui survient, ce désir de raconter l'histoire, il surviendrait peut-être en même temps que la maîtrise du feu, puisqu'alors on peut éclairer la nuit, et puisqu'alors on s'installe autour d'un feu. C'est chez vous que j'ai
dans
lu
pourquoi
ça.
J'ai mangé mon père, j'adore cette histoire-là. Mais attendez, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est aussi la sexualité. Le langage intervient dans les jeux de séduction, dans la capacité, on a le chant, on a la prosodie. Est-ce qu'on a Néandertal chanté? Je ne le sais pas, mais je ne serais pas surpris qu'il l'ait fait. Et donc, la séduction, le langage, comme le chant chez les oiseaux, intervient dans des espèces comme les nôtres. Donc ça, ça veut dire que ce n'est pas apparu pour cela, mais ça participe aussi, certainement, du renforcement du langage et de ses caractéristiques.
Alain Kim.
Oui, une autre chose à ne pas oublier, me semble-t-il, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est que quand même l'espèce humaine semble être celle qui est la plus consciente de sa propre mort. Apparemment, les chimpanzés sont très mal à l'aise quand ils voient un cadavre de l'un de leurs congénères, mais enfin, ça va guère plus loin.
On ne sait pas trop, mais en effet.
On ne sait pas trop. Mais les êtres humains, en tout cas, en sont très, très conscients, et donc d'où la nécessité de se raconter des histoires sur l'au-delà.
Sur ce point ou sur d'autres, Christophe Coupé.
Deux petits points, effectivement. Je pense, d'une certaine façon, on a presque l'impression que notre système cognitif, il est adapté. Notre façon de comprendre le monde, c'est une façon de comprendre le monde sous la forme de récits. Si on pense, bon, il y a les mythes des origines dans de nombreuses cultures. On parle aujourd'hui de storytelling, par exemple, que pour un homme politique, une bonne façon d'être convaincant, c'est de fabriquer un récit. Ça, c'est un point. Et sur cette idée qu'effectivement, on peut avoir les capacités, mais qu'elles ne sont pas forcément mises en jeu, je peux donner deux exemples. Prenons l'écriture. Les êtres humains sur la Terre peuvent apprendre à écrire. Néanmoins, il y a énormément de langues qui ne sont que orales et il n'y a pas l'écrit. L'écrit, c'est une invention culturelle qui est récente. Elle met en jeu différentes capacités cognitives. Premier exemple. Deuxième exemple, quand on travaille avec les grands singes, il y a eu tout un tas d'expériences, en particulier depuis les années 70, donc pour essayer d'apprendre un système de communication aux grands singes, des chimpanzés, des bonobos. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces animaux-là, vous prenez par exemple Kanzi, qui est un bonobo assez célèbre de ce champ scientifique, il comprend raisonnablement bien l'anglais oral. Si vous l'appelez au téléphone et vous lui dites quelque chose au téléphone, il va comprendre ce que vous lui racontez. Si on regarde les bonobos dans la nature, ils n'utilisent pas... ils ont la capacité, puisqu'ils peuvent acquérir dans un environnement qu'on contrôle et qu'on instaure avec eux, mais dans la nature, ils ne montrent pas cette capacité, ils ne la mettent pas en jeu. Donc c'est que chez nous, dans la préhistoire, il s'est passé quelque chose, un environnement particulier qui fait qu'on a, voilà, on a recruté ces capacités et qu'il y a quelque chose qui s'est produit.
Alain Kim, vous nous avez parlé depuis le début de votre travail sur les créoles. On évoquait tout à l'heure Christophe Colomb. En quoi votre travail... Vous l'avez expliqué au tout début de cette émission, mais j'aimerais bien le réentendre à la toute fin, peut aider justement à ces questions que nous nous posons. En quoi elle travaille sur des langues qui sont nées, mettons, entre le 15e et le 16e siècle, dans une durée de temps très courte, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, aide à comprendre tout cela, le créole en particulier, les créoles, puisqu'il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs, effectivement, qui ne sont pas tous nés dans les mêmes conditions. C'est un domaine très plus complexe qu'on ne croit souvent, parce que quand on parle de créole en France, on pense aux Antilles, essentiellement, alors qu'en fait, les créoles, il y en a dans le monde entier, et y compris en Inde, en Asie, etc., qui sont nés dans des conditions assez différentes, sur la côte de l'Afrique, etc. Je ne pense pas que les créoles puissent nous apprendre grand-chose sur l'origine du langage. Pour la simple raison, c'est que les gens qui ont créé, fait émerger les créoles, avaient déjà le langage.
Mais ça, c'est
donc,
sûr.
Ils l'avaient. Donc... qu'est-ce qui a bien pu se passer tout au début quand le langage est émergé? Je ne pense pas que les créoles puissent nous aider énormément. Par contre, je pense qu'ils sont intéressants pour la naissance des langues. Précisément à cause de ce caractère qu'ils ont d'être nés très vite, dans des conditions très particulières, ça peut nous donner des idées sur ce qui... Parce que en fait, une petite différence entre l'arbre des langues et l'arbre des génétiques, c'est que les langues se rencontrent. Mmh. Bon, les gènes aussi se rencontrent, vous me direz. Mais quand les langues se rencontrent, il ne se passe pas exactement la même chose que quand des individus se rencontrent. Les langues ne se mélangent pas comme ça. Vous voyez. Elles se modifient. La rencontre amène des modifications, souvent d'ailleurs assez imprévisibles. C'est pour ça que je préfère parler d'émergence que de naissance, parce que l'état antérieur ne permet pas de prédire complètement l'état ultérieur. Donc des modifications relativement imprévisibles qui font dévier les choses, du cours ordinaire, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, et c'est un phénomène extrêmement courant, extrêmement banal dans l'histoire de l'humanité. Donc je pense que de ce point de vue-là, pour ce qui est de l'apparition d'une langue nouvelle, en fait les créoles sont le seul exemple
de laboratoire, pourrait-on dire.
Presque, l'expression a été utilisée par d'autres.
Ça s'est passé quasiment sous nos yeux, voilà, d'une certaine façon.
Oui, c'est la première fois, et peut-être la seule fois, enfin dans l'histoire, je ne parle pas de la préhistoire, mais dans l'histoire où on a vraiment une émergence d'une langue qui est vraiment nouvelle. Alors que le français, par exemple, bon, il n'y a pas vraiment un moment où il émerge. Mmh. C'est une évolution continue.
Christophe Coupé.
Juste pour reprendre, effectivement, que la compréhension de ces phénomènes de contact entre langues, pourquoi c'est quelque chose d'important, c'est que quand on regarde le procédé qu'utilisent les linguistes pour la linguistique historique, c'est un procédé qui, intrinsèquement, peut-être pointe vers une première langue unique.
Oui, alors que...
Mais si on pense, par exemple, à nos premiers ancêtres Homo sapiens en Afrique de l'Est, est-ce qu'il y a une raison particulière pour dire qu'ils parlaient une langue, qui était complètement non différenciée? Est-ce qu'au contraire, s'il y avait différents groupes, est-ce qu'ils parlaient peut-être plusieurs langues qui venaient déjà d'un passé plus lointain? Il faut faire attention avec cette idée de la langue originelle. Ah oui. On parle de monogenèse par rapport à une polygenèse. C'est que, par exemple, dans le procédé de reconstruction des langues, le procédé traditionnel, il y a un biais qui pointe vers une langue unique. Mais c'est un biais du procédé.
Pascal Pic.
Ah oui, c'est un biais méthodologique, il faut le rappeler. Hein. Mais Mary Trulane, dont on a évoqué tout à l'heure, qui retrouve vers le premier mot. Attendez, d'abord, ce n'est pas une langue. C'est en fait c'est comme nous, avec un organisme. Qu'est-ce que nous faisons, les paléontologues? C'est regarder le caractère osseux qui est commun à tout cela. Et le caractère osseux ne va pas subsumer toute l'espèce, bien évidemment. Donc, quand on dit que, par exemple, la diversité génétique des 7 milliards d'hommes et de femmes aujourd'hui sur la Terre remonte à 50 000 individus il y a 60 000 ans, ça ne veut pas dire qu'il y avait 50 000 individus. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des centaines de milliers d'autres individus dont on n'a pas les traces génétiques. Et pour vous donner le meilleur exemple...
Une des questions qu'on peut se poser, c'est combien de langues sont-elles mortes sans qu'on le sache vraiment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que des langues meurent, mais effectivement, avec cette idée de la langue originelle, on oublie qu'il y avait sûrement, à côté de cette langue originelle, si elle n'a jamais existé, tout un tas de langues qui existaient auparavant et qui ont disparu parce que l'évolution les a fait disparaître, Christophe Coupé.
C'est sûrement des milliers et des milliers et des milliers.
Déjà, quand on dit le français, c'est déjà un abus de langage. Ouais. Le français, ça n'existe pas. Il y a des français, il y en a plein. Celui qu'on est en train de parler, d'autres, etc. Donc, même la notion de langue elle-même doit être critiquée.
Mais dès qu'un groupe ou des groupes commencent à disperser, il y a la dérive linguistique et génétique. Les mécanismes sont les mêmes. Donc, en Afrique de l'Est, il y a 100 000 ans, parmi les premiers Homo sapiens, il devait y avoir des centaines de langues ou dialectes ou de créoles ou de pidgin.
La question, c'est dont on ne saura jamais rien. Parce que, aussi, une des grandes questions qui nous taraude, en fait, au bout du compte, c'est qu'effectivement, historiquement, y a-t-il des choses qu'on ne saura jamais? Ça peut faire partie des choses qu'on ne saura jamais, Christophe Coupé.
Le meilleur moyen, c'est d'inventer une machine à remonter dans le temps.
Non, il est au chômage, là.
merci Pascal Pic, merci Alain Kim, merci à vous, Christophe Coupé. Donc, je conseille évidemment la lecture de Vassilis Alexakis, Le premier mot. C'est un roman, évidemment, qui tente, et d'ailleurs, ça se termine mal, puisque, évidemment, elle ne trouve pas celle qui cherche le premier mot à la fin de ce roman. Aux origines des langues et du langage, sous la direction de Jean-Marie Humbert, c'était il y a quelques années chez Fayard. Pascal Pic, vous aviez écrit La belle histoire du langage avec Laurent Sagard, Ghislaine Dehaene et Cécile Létienne. C'était au seuil, mais vous avez écrit plus récemment L'homme est-il un grand singe politique? Merci à toutes, merci à tous, donc merci à vous, Périne, d'avoir préparé cette émission donc autour de cette langue et de ce langage. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Vincent René était à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, allez sur le site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter l'émission pendant 3 ans, vous pouvez la télécharger pendant 1 an et discuter avec nous sur ce site ou sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu.